Et la revue de presse ce matin, c'est avec vous, Laurélie Carif, bonjour.
Bonjour. L'élan, cette impulsion que l'on prend avant de sauter. Mais pour atterrir où, comment, impossible à dire à l'instant T. L'élan algérien, titre ainsi Libération, qui décrit un pays au bord de l'éclosion. Combien étaient-ils hier dans la rue? Au moins plusieurs dizaines de milliers de manifestants contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, qui fête aujourd'hui son 82e anniversaire. À l'origine de cette colère, pas de vendeurs de légumes immolés, comme ce fut le cas en Tunisie, pas d'enfants torturés comme à Deraa en Syrie, note le journal, mais une lente accumulation de rancœur, goutte à goutte, contre un pouvoir aussi sourd et aveugle que son président. Alors que depuis 2011, des dizaines de chercheurs, de journalistes, de politiques ont théorisé l'impossibilité pour le pays d'avoir son printemps arabe, depuis une semaine, les manifestants tentent de prouver le contraire. Algérie, le week-end où tout peut basculer, peut-on lire en une du Parisien aujourd'hui en France. Basculer, oui, mais vers quoi? On connaît le résultat. Résultat, écrit Jean-Michel Servent, très péremptoire dans les colonnes de Midi Libre. Difficile de croire que les forces progressistes de l'Algérie réussiront là où celles de la Libye, de l'Égypte et de la Tunisie ont échoué.
Le Figaro l'a surnommé le Tom Cruise du gouvernement.
Celui des missions impossibles. M, le magazine du Monde, dresse le portrait de Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales et VRP du macronisme auprès des élus locaux. C'est lui qui fait passer le micro lors des échanges organisés dans le cadre du grand débat national. Lui qui n'a que 32 ans, le Mbappé de la politique, dixit le sénateur de l'Orne Alain Lambert. Sébastien Lecornu ne manque jamais la moindre cérémonie de vœux. Il décore à tour de bras, cultive ses réseaux. Le Normand a pris goût à la politique en suivant assidûment les questions au gouvernement. Gendarme de réserve, il a été le chef de peloton d'un certain Alexandre Benalla qui lui a sauvé la vie, jure-t-il, puisque face à un chauffard qui, plutôt que d'obtempérer, a préféré leur foncer dessus, l'ex-monsieur muscle de l'Élysée aurait eu le réflexe salvateur d'enclencher la marche arrière.
Et pendant ce temps, Cherbourg ronge son
8 mois que la ville n'a pas de commissaire, note le Parisien aujourd'hui en France. On connaissait le désert médical, voici donc le désert policier. Cherbourg, 80 000 habitants, 4e ville de Normandie tout de même. Mais personne pour prendre la tête du commissariat. Une prime exceptionnelle, jusqu'à 1 000 euros par mois, a été ajoutée sur la fiche de recrutement pour appâter les candidats potentiels. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Pourquoi? Eh bien parce que le taux de délinquance de Cherbourg est trop bas. Ça n'est pas attractif pour un commissaire, déplore le maire socialiste Benoît Arrivé, qui a interpellé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur sur la question. Sonia Crimi, députée de La République En Marche, s'agace. Faut-il que notre taux de délinquance remonte pour que nous soyons entendus?
Slade s'interroge sur ce que peut ou doit être l'information de proximité.
Et nous emmène à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Là, plusieurs médias locaux se partagent le gâteau. Le Parisien, le Courrier de Mantes, la Gazette des Yvelines et un site internet, Mantes Actu, 15 000 abonnés Facebook, bien loin devant ses concurrents, pour un rédacteur quasiment unique et des articles qui font rarement plus de 10 lignes. Alors comment expliquer ce succès? C'est la question que se pose Slate. Peut-être que ce site répond tout simplement à ce que veulent les gens, une information brute, factuelle, sans commentaire. 10 lignes pas plus parce que de toute façon, les gens n'ont pas le temps de lire plus. Peut-être ainsi aussi parce que le fondateur de Mantes Actu, Abou Bakri Ndiaye, ne s'est pas lui installé dans le centre de Mantes, mais au Val-Fouré, là où vivent plus de la moitié des habitants. Le territoire français est un amas de niches ultra-locales dont on ne peut parler correctement qu'en les regardant. Non pas en les regardant de loin et encore moins lorsque, aidé par cette distance confortable, on se met à statuer et à donner un avis. C'est la conclusion que tire de cet exemple Thomas Delogy et que nous, médias, nous devons sans doute prendre le temps de méditer.
Prendre le temps et pourquoi pas prendre de la hauteur, tiens, avec la Dépêche qui consacre un dossier aux 50 ans du Concorde.
De mars 69, 15h38, premier vol pour le Concorde depuis Toulouse-Blagnac. L'avion supersonique a ensuite fendu le ciel de tous les continents jusqu'à son retrait définitif en 2003 après le crash. Le journal s'attarde sur le rêve qu'il représente alors avec son fuselage effilé, son bec de héron et ses ailes d'albatros. La Dépêche fait aussi le point sur les projets qui ambitionnent de lui trouver un successeur. La hauteur justement et le vertige qu'elle engendre, certains perchistes ne s'y font pas. Belle double page aujourd'hui dans Libération à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Avec cette discipline si impressionnante qu'elle soit, la perche qui consiste, on le rappelle grosso modo, à s'élever à hauteur du deuxième étage d'un immeuble voler à retomber sans dommage. Certains athlètes se retrouvent donc confrontés parfois au refus de piquer. C'est un vrai blocage. L'impossibilité de piquer leur perche après leur course d'élan. Le champion olympique australien Steve Hooker y a été confronté. En France, Kevin Menaldo a été obligé de mettre fin à sa carrière à cause de ce blocage, freiné brutalement dans son magnifique élan.
Les cuisines de Bocuse feraient-elles du surplace? Je vous pose la question.
Stéphane Durand-Soufflant pour le Figaro s'est rendu au restaurant qu'a laissé derrière lui Bocuse après sa mort à Collonges, au Mont d'Or, près de Lyon. Une table créditée d'un 18 sur 20 au Goemio, car Bocuse est à la cuisine ce que Brando est au cinéma, un patronyme contenant une promesse tenue d'avance. Et pourtant, rien pour éblouir les papilles de notre chroniqueur culinaire, qui nous décrit dans cet article un velouté sans intérêt, une soupe aux truffes noires végé dans un bouillon qui n'a certainement pas le goût de la truffe, un filet de sole trop cuit, noyé dans la sauce, une cuisine Grévin, en conclut le journaliste, conservatoire des musées d'antan, une cuisine qui aurait besoin de retrouver une saine impulsion, en tout cas un peu d'élan.
Merci de nous mettre à table de bon
enfin,
matin,
pas
dans ces conditions en tout cas, on a bien compris. Merci d'Aurélie qui est arrivée, à demain.